comme on m'a laissé le libre choix pour le sujet, j'ai choisi cette fois-ci de ne pas forcément travailler sur des œuvres ou d'étudier des films comme je le fais habituellement, soit pour l'histoire, le contexte ou pour le contenu esthétique, mais plutôt de parler du métier de cinéaste. Parce que bon, c'est un petit peu bateau de dire qu'à Cuba, beaucoup de choses se font de manière spécifique, mais ça n'est pas tout à fait faux. Et le métier de cinéaste, c'est-à-dire comment on devient cinéaste, comment on finance ses films, etc., c'est une vraie problématique propre au pays. Donc simplement pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je travaille sur Cuba depuis 20 ans maintenant. J'ai vécu là-bas en 2003-2004, donc doctorat inclus, hein, les 20 ans. Et c'est pour me rajeunir un petit peu. Et mon quotidien de chercheur, en fait, au fil des années, s'est transformé en une sorte de suivi de l'évolution d'un cinéma cubain qui, à la base, était presque seulement institutionnel quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 90, qui était un cinéma très cadré, très encadré, assez facile à suivre. En fait, j'arrivais à voir tous les films, je voyais toute la cinématographie au fur et à mesure qu'elle sortait. Et c'est passé petit à petit au fil des années à une cinématographie plus éclatée, plus hétérogène, à des cinéastes qui n'étaient plus à Cuba, mais qui malgré tout pour moi font tout de même un cinéma cubain. Voilà, donc ces deux phases, institutionnelles dans un premier temps, puis dans un second temps institutionnelles et indépendantes, m'intéressent autant. En fait, je ne rejette pas la partie institutionnelle au nom de l'indépendante uniquement, mais je m'intéresse beaucoup à l'indépendante malgré tout. Donc ce qui a subi un véritable éclatement, donc outre l'éclatement géographique des cinéastes, c'est aussi les modes de production. Avant, il y avait une manière de faire des films cubains, et puis dans un second temps, c'est devenu assez insaisissable. Quoi. Comment financer son film et le diffuser, c'est devenu quelque chose de très très divers. L'aspect obsédant de ma recherche, c'est que Cuba est constamment en transition, parce qu'on nous invite souvent à renouveler un peu nos sujets, à sourire sur d'autres pays. Et la raison pour laquelle je n'arrive pas à lâcher Cuba, c'est que Cuba vit une transition annoncée depuis longtemps et qui toujours prend des détours inattendus. C'était toujours bah, quand Fidel mourra, il va se passer ça. Quand Fidel va laisser le pouvoir à son frère, ouh là là, on craint ça et ça. Quand Obama va arriver, quand Trump va arriver. Et il se passe à chaque fois quelque chose d'inattendu par rapport à ce qui était prédit par les analystes divers et variés. Donc cette façon de déjouer les prédictions des transitions successives me fait que je n'arrive pas à lâcher mon sujet, puis de toute façon, il n'y a aucune raison de lâcher son sujet. Voilà. Et cette transition sociale et politique, permanente et longue, s'inscrit dans les arts visuels constamment. En fait. C'est quelque chose que j'observe dans mes films. Il est très rare que des films soient décontextualisés. Et... Donc l'une de mes bases de travail, ce sont les festivals. C'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Sélectionner des films, voir des films, d'autres pays. Et aussi, présenter des films dans le cadre des festivals pour confronter mon regard à celui de gens qui ne connaissent pas Cuba, c'est ce qui m'intéresse énormément. Voilà. Et plus précisément, actuellement, j'ai deux projets en cours. Un que je ferai si j'avais du temps et un que je fais déjà. Le premier, c'est un travail de cartographie que j'aimerais lancer, qui est un travail de cartographie de la vanne imaginaire telle que les cinéastes l'imaginent. Donc ça, j'ai commencé très modestement, mais j'aimerais vraiment faire ça, c'est à travers les films, mais ça peut fonctionner pour Paris, pour New York. Voilà. Quelle est la Havane que l'on voit dans les films? En quoi diffère-t-elle de la Havane réelle, etc. Et mon deuxième projet, ce serait d'écrire une gastro-histoire de Cuba, donc de voir comment la politique s'est inscrite dans les assiettes. Bon, c'est quelque chose de très, très, de plus éloigné, mais qui m'intéresserait beaucoup. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler plutôt de la genèse des cinéastes, avec deux questions. Donc la première, c'est tout simplement comment devient-on cinéaste à Cuba dans les années 60? Comment le devient-on aujourd'hui? Ça a un petit peu évolué. Comment dans les films, en fait trois questions, comment dans les films les cinéastes évoquent leur métier? Parce que ça, c'est intéressant de chercher dans les films les traces un peu auto-réflexives de son propre métier. Que signifie dans l'île le fait de consacrer sa vie à son art? C'est quelque chose qui, selon les pays, signifie quelque chose de très différent. Mais ma question la plus cruciale, c'est comment reste-t-on cinéaste? Parce que le devenir, c'est très simple à Cuba. D'autant que, compte tenu du salaire soi-disant égal pour tout le monde, finalement, annoncer à ses parents qu'on va être cinéaste n'est absolument pas une catastrophe. Donc, de nombreux jeunes se dirigent vers les carrières artistiques sans que ce soit un problème social. Donc, le problème, c'est comment devenir cinéaste, comment parler de son métier et comment rester cinéaste longtemps, si possible. Voilà, donc le corpus que j'ai choisi, c'est un corpus extrêmement large qui va de 59 à aujourd'hui. 59, c'est bien sûr la date de la révolution cubaine, mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de film avant. En 59, ils ont essayé de faire table rase du passé. L'historiographie officielle déclarait qu'il n'y avait pas de cinéma cubain avant. Depuis, il y a énormément de bibliographies. On sait que le cinéma pré-révolutionnaire a existé. Il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, il est très important de respecter son existence. Néanmoins, moi, je m'intéresse vraiment ici au cinéma révolutionnaire au moment où être cinéaste s'inscrivait dans une industrie, c'est-à-dire quelque chose d'organisé, quelque chose de financé. Un de mes constats, ça a été de voir à quel point Cuba est passé depuis les années 60 d'un phare et d'un modèle cinématographique pour toute la région. C'était incontournable, c'était l'objectif, il fallait faire comme les Cubains. Les festivals centraux du cinéma latino-américain passaient par la Havane. Enfin, c'était vraiment ça la clé. Et aujourd'hui, et ça m'attriste un petit peu, parce que c'est mon objet de recherche, mais Cuba est devenu un pays tout à fait secondaire cinématographiquement. Je ne sais pas quel est le dernier film cubain que vous ayez pu voir en salle, mais les sorties, ça a été Yuli, qui est un film espagnol, extrêmement suivi par les Cubains, et très... Enfin, là, il a été produit par des Cubains, donc il est très authentique, mais voilà, donc la plupart du temps, on a des films étrangers, et on a très peu de films cubains de toute façon. Et... Donc au fil de ma présentation, je vous ai amené pas mal de séquences filmiques. Parfois le son est un peu mauvais, donc il faut faire l'effort de s'adapter à l'accent cubain, mais voilà. Donc mon premier point dans les plans détaillés que je vous ai apportés, ça concerne la formation des cinéastes, pour voir un petit peu quelle était la spécificité de la formation à Cuba. Donc comme partout dans le monde, la première étape c'est de voir des films pour former son regard. Voilà, ça c'est tous les cinéastes sont d'abord, en général, des cinéphiles qui voient des choses et qui se disent bah, « je vais adopter tel genre, je vais repousser d'autres influences ». Et donc à Cuba, c'est quelque chose qui s'est fait de façon très large. Il n'y a pas eu de restrictions telles qu'on peut les imaginer parfois de l'extérieur, en se disant, ben, forcément, avec l'embargo états-unien, ils ont rejeté le cinéma états-unien. Et ça, c'est tout à fait faux, en fait. Enfin, je ne dis pas que vous le pensiez vous-même, mais bon, c'est quelque chose qui peut aller de soi, de se dire que le cinéma états-unien, mainstream ou plus indépendant, n'arrive pas à Cuba. Ça, c'est faux. Ils peuvent vraiment voir toutes sortes de cinéma. Donc finalement, la diminution des salles et le mauvais état des salles de cinéma à Cuba est peut-être le plus grand obstacle à la fusion du cinéma aujourd'hui à Cuba. Mais les Cubains voient du cinéma et ils voient tout type de cinéma, notamment à travers un nouveau système qui s'appelle El Paquete Semanal. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais en fait, c'est... Vu qu'Internet et l'accès à Internet est difficile à Cuba, maintenant on arrive à en avoir, mais le débit est très mauvais. Donc quelque chose a été créé, un système D cubain, qui est d'aller chercher tous les mardis, à l'époque c'était le mardi, sur une clé USB, des contenus multimédia de tout type. Donc ça peut être des logiciels, des revues états-uniennes, des séries Netflix comme des séries n'importe quoi. Bon, c'est totalement illégal, totalement piraté. Et vous payez une certaine somme le premier jour, puis ensuite, comme au fil de la semaine, le contenu n'est plus très actuel, ça coûte moins cher, bon bref, c'est devenu une vraie institution. D'ailleurs, la plupart du temps, les films des cinéastes passent par ce biais-là directement, quoi. Ils ne sortent jamais en salle et ils ont un public énorme grâce au paquet semanal qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Et donc, ce qui a été repoussé à Cuba au début du cinéma révolutionnaire, ça a été deux influences. La première, c'était... c'est pas vraiment une influence, mais c'est la tendance du cinéma escapiste, donc celui qu'on va voir simplement pour se vider la tête. Voilà. Dans les années 60, c'était absolument pas une option à Cuba. Il fallait faire du cinéma politique et aller voir du cinéma politique, éducatif, etc. Et la deuxième tendance qui a été vraiment niée, refusée par les cinéastes, c'était celle du réalisme soviétique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans les années 60, où il fallait être en phase avec les camarades soviétiques et la solidarité avec le bloc de l'Est. Par rapport au cinéma, ça a été quelque chose d'assez rejeté. Alors pas les grands théoriciens du montage, tout ça c'est très bien, mais plutôt vraiment l'influence du réalisme soviétique tel qu'on l'imagine, premier degré, dogmatique, etc. Je vais vous passer une séquence de La mort d'un bureaucrate, qui est un des films de Tomás Gutiérrez Alea les plus connus en France, parce qu'il a été au CAPES, notamment il y a de très nombreuses années, qui est une séquence où le personnage principal, Juan Chin, se retrouve dans un atelier. Et c'est un atelier qui fait beaucoup, beaucoup de campagnes, de propagande, d'affiches. Et justement, là, on voit comment Gutiérrez Alea se moque un petit peu de ce réalisme soviétique premier degré. dans les affiches. Le film entier est une critique contre la bureaucratie, mais cette séquence est vraiment intéressante dans son usage très premier degré de tous ces symboles orthodoxes, donc la force de l'homme nouveau, la dénonciation de l'impérialisme, à travers tout un tas de métaphores très simplistes qui sont encore utilisées aujourd'hui dans les milieux les plus dogmatiques cubains. Donc voilà, c'était déjà quelque chose de dénoncé par Gutiérrez Alea dans les années 60. Donc dans ce PowerPoint, je vous laisserai toutes les références. Voilà, j'ai mis chaque fois que je le pouvais les affiches originales sérigraphiées. Donc en fait, les influences reçues par les cinéastes cubains sont très diverses. Il y a vraiment eu une très forte influence des nouvelles vagues européennes. Il y a eu une acceptation de certains codes états-uniens, un rejet du dogmatisme soviétique, mais surtout la certitude qu'ils avaient quelque chose d'unique à refléter. Donc en gros, il y a une acceptation des influences, mais avec l'obligation de chercher un langage propre, un langage qui soit cubain. Donc pour ça, les cinéastes, dans un premier temps, vont rentrer dans l'institut qui s'appelle l'ICAIC, vous connaissez peut-être, probablement, l'Instituto Cubano dell'Arte e Industria Cinematográficos, qui va petit à petit évincer tous les autres organismes nationaux et devenir l'organisme principal et hégémonique. Et les premiers candidats au métier de cinéaste vont entrer dans cet institut et apprendre sur le tas. Donc la méthode est simple, c'est dans un premier temps le documentaire, ensuite la fiction, ce qui est quelque chose de pas forcément logique. En France aujourd'hui, on peut former d'un côté des gens qui ne feront que du documentaire toute leur vie ou que de la fiction. Voilà. Mais là, c'était un système comme ça de tu entres, tu expérimentes, tu vois des films et ensuite tu vas directement sur des tournages et tu montes les échelons. L'ICAIC va devenir un système horizontal très similaire à celui des studios états-uniens, c'est-à-dire on possède tout depuis la pré-production, le scénario, le financement jusqu'à la distribution en salle et même aujourd'hui les goodies et les DVD qui sont très peu nombreux d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc, notamment ce qui a fait école, c'est le Noticiero ICAIC Latinoamericano, qui est un noticiero très connu à Cuba, sur lequel Paris 4 va lancer un séminaire, qui a été un noticiero qui est actuellement rénové par l'INA. Donc l'INA l'a remis vraiment, c'est un très beau travail. Mais ça a été une vraie école pour les cinéastes, pour chercher ce ton justement, qui soit un ton à la fois d'exaltation des réussites du régime, mais avec une spécificité esthétique et artistique très marquée. Voilà. Et donc le cinéaste, au milieu de cette exaltation révolutionnaire, a reçu des injonctions. Donc il y avait à la fois cet institut et il y avait une loi qui a été votée en mars 1959, donc 3 mois après la victoire révolutionnaire, et qui donnait au cinéaste une mission extrêmement claire à laquelle il ne pouvait pas échapper. C'est-à-dire que les années 60-70, il n'y avait pas d'issue, et jusqu'à aujourd'hui, puisque la loi est toujours en vigueur, vous étiez régi par cette loi, donc j'ai simplement mis des petits extraits. Donc la première ligne de la loi dit « El cine es un arte ». Donc ça a été inscrit dans une loi en 59, c'est quand même bien de le signaler. Mais ensuite, évidemment, comme dans tous les textes de loi, il faut lire entre les lignes. Donc ils disent bien que, enfin en substance, après je vais rapidement lire, mais que la forme est libre, le fond doit être cubain, révolutionnaire. C'est quelque chose de très important. Il y a un texte... Un point de la loi que je n'ai pas indiqué ici, mais qui dit bien que globalement, la révolution cubaine offre suffisamment de sources d'inspiration pour qu'on n'aille pas chercher des thèmes ailleurs. C'est dit très clairement. Et nuestra epopeya contiene una cantera de temas, no sé qué, c'est quelque chose comme ça. Donc là, el cine debe conservar su condición de arte y, liberado de ataduras mezquinas e inútiles servidumbres, contribuir naturalmente. Ce sont des mots comme ça un petit peu ambigus. Y con todos sus recursos técnicos y prácticos al desarrollo y enriquecimiento del nuevo humanismo que inspira nuestra revolución. El cine, como todo arte noblemente concebido, donc il y a toujours ce rappel de l'art, debe constituir un llamado a la conciencia y contribuir a liquidar la ignorancia, a dilucidar problemas, a formular soluciones y a plantear dramática y contemporáneamente los grandes conflictos del hombre y la humanidad. Donc, es el cine el más poderoso medio de expresión artística y de divulgación. Donc, il y a toujours cette obligation de faire du cinéma un moyen d'éducation du peuple. Et ensuite, l'article premier qui explique la mission de l'Institut tendrá por finalidad organizar, establecer y desarrollar la industria cinematográfica atendiendo a criterios artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana y en los fines de la revolución que la hace posible y garantiza el actual clima de libertad creadora. Donc ça c'est très clair, il y a une mission, il faut s'y tenir. Il y a un film très intéressant de Manuel Octavio Gómez qui s'appelle La primera carga al machete, j'ai parfois les versions françaises des affiches, qui est assez intéressante parce qu'il applique cette règle en 69 de documenter l'épopée cubaine. Et il remonte au 10 octobre 1868, et la première charge à la machette de la guerre d'indépendance. Et ce film est passionnant et très très moderne pour l'époque, puisqu'il fait un documentaire, enfin une sorte de fiction qui triche avec la réalité, puisque ce sont des acteurs qui jouent les colonels, les espagnols, voilà, donc tout le contexte de 1868, mais il le filme comme un documentaire actuel. Donc il va interviewer les gens qui s'expriment face caméra, donc c'est assez intéressant, comme il dit, ok, je dois documenter Cuba et son histoire, et eh bien je le fais premier degré, donc à travers un faux documentaire. Et dans un second temps apparaissent les écoles. Puisque il y a de nombreux pays dans lesquels ça ne va pas de soi que le cinéma soit quelque chose qui doit s'apprendre dans une école. L'Argentine, dans les années 60, travaille là-dessus, avec des écoles de documentaires, voilà. Donc là, les écoles de cinéma apparaissent un peu partout en Amérique latine, et à Cuba, c'est dans les années 80 qu'il y a deux écoles qui sont créées. Je mets les deux là. À votre gauche, l'école internationale, donc c'est la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, qui est une école internationale dans laquelle étudient des Cubains, mais c'est payant, et dans laquelle il y a des étudiants africains, asiatiques, états-uniens aussi, français beaucoup. Et ensuite, il y a l'école nationale, qui accueille une majorité de Cubains et parfois quelques étrangers, qui est LISA, avec la FAMCA, qui est la faculté de cinéma. Voilà, donc il y a deux écoles qui vont aussi asseoir le fait, dans les années 80, que passer par une école est presque l'unique chemin pour faire du cinéma. Voilà. Et c'est là que va s'opérer la transition. La première étape, c'est une période d'exaltation, la période de l'épopée, la période de la conviction, où les cinéastes sont très très sûrs de ce qu'ils... de ce qu'ils vendent, mais c'est assez moche, mais de ce qu'ils appuient, du processus politique qu'ils soutiennent. Et dans un second temps, à partir des années 70, assez rapidement, il va y avoir une prise de distance, du recul, et quelques ruptures. Alors ça va être des ruptures artistiques, des ruptures idéologiques, mais c'est quelque chose qu'on va voir petit à petit poindre dans les films, c'est-à-dire un questionnement sur ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est là que je me suis un petit peu intéressée à ce que les créateurs disent au sein des films. Donc comment, dans leurs films, ils arrivent à parler de leur métier pour évoquer les réalités du métier de cinéaste, qui sont parfois des réalités universelles, hein, les crises des créateurs, etc. Mais plus souvent, il y a des choses un petit peu plus spécifiquement cubaines, comme la revendication de l'autonomie, de la liberté de créer, de la liberté de se tromper. Donc pour ça, Tomás Gutiérrez Alea, donc le plus célèbre, celui de Fresa y Chocolate, va toute sa vie, jusqu'à sa mort au milieu des années 90, revendiquer la nécessité de critiquer de l'intérieur. Pour lui, c'est la première règle du cinéma. Critique-toi toi-même, sinon le voisin le fera pour toi. Le voisin états-unien, évidemment. Et ensuite, il revendique la liberté de se tromper, la liberté de s'éloigner un petit peu de la règle. Donc là, je vais vous passer trois extraits de ces films qui parlent un petit peu de ça et qui contiennent cette idée de, en tout cas, revendiquer la liberté d'expression, puis commencer à dire à quel moment on vous la limite. Donc le premier extrait, c'est l'extrait du grand classique Mémoire du sous-développement, donc 1968. Ça, c'est l'affiche initiale peinte par le frère de Saura, je crois, et là une affiche plus récente. Donc dans ce film, je vais pas forcément raconter le film, on n'a pas besoin de comprendre tout le film pour comprendre cette séquence là, mais il y a un petit montage très furtif, un montage cut tout simple qui fait passer d'un plan à un autre, et vous allez voir que il y a aucun doute sur le message que veut faire passer Gutiérrez Alea, et on est seulement en 1968. Donc c'est une discussion entre Sergio, le bourgeois qui n'est ni révolutionnaire ni contre-révolutionnaire, qui reste à Cuba pour observer ce qui va se passer et qui voit partir ses amis qui sont plus extrêmes que lui et qui vont vivre à Miami. Donc lui reste à Cuba. Voilà, donc là c'est ce tout petit moment où, à la suite de son monologue sur des images d'archives de la Havane, où il dit « Siempre necesitan que alguien les diga Cassel, quelque chose comme ça, montage cut, et là on a cette vaille de propagande où il y a Fidel Castro qui apparaît clairement. Donc voilà, ce sont les tout petits signes comme ça que Gutiérrez allait aimer mettre dans ses films. Alors c'est pas vraiment lire entre les lignes de façon très subtile, hein. Tout le monde sait que Gutiérrez Alea était un peu provocateur aussi, mais il a toujours réussi à faire passer ce qu'il voulait. Donc dans Fraises et chocolat, dans un des célèbres monologues de Diego, le personnage homosexuel qui dérangeait à l'époque de l'histoire racontée, on le voit là aussi dire quelque chose d'un petit peu limite. Donc là il s'agit d'une des premières fois que David, le jeune communiste exemplaire, se rend à la guarida, la tanière dans laquelle vit le loup Diego. Diego qui revendique une cubanité différente, ouverte et inclusive. Pas tellement sexuellement d'ailleurs, mais pour tout le reste. Donc c'est une phrase qui est devenue un peu célèbre comme ça dans Fraises et chocolat. Con la falta que nos hace otra voz. On voit très clairement dans la manière de filmer le personnage, dans la direction d'acteur, qu'il est mis au milieu du plan. Il se retourne donc vers David, mais aussi indirectement vers le spectateur, pour dire cette phrase. Et juste derrière, il revient, enfin, il gomme l'aspect métaphorique en faisant semblant de ne parler que de chanteuse. Mais bon, évidemment, ce sont des petites phrases quoi, qu'on décide ou non de relever. Donc dans tous ces messages qui font état de l'inquiétude et de l'état de vigilance des artistes quant à leur liberté d'expression, on a un autre extrait de Memoria del Subdesarrollo, où le cinéaste se met carrément en scène. Donc on va voir ici Tomás Gutiérrez Alea qui joue dans son propre film le rôle d'un cinéaste de l'ICAI. Donc là, il n'y a plus trop de doute. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, donc vous allez voir juste un bref plan de Brigitte Bardot, mais juste avant, il y a toute une succession de plans un peu dénudés, de plans de films hollywoodiens où il y a des femmes qui enlèvent le haut, le bas, bon bref. Donc tout un tas de petits plans vaguement érotiques, pas non plus pornographiques. Et juste après, cut, et on a la discussion entre Sergio, le héros du film, et le cinéaste directement. Et là, c'est drôle parce qu'il évoque à la fois la censure avant la Révolution, mais aussi la censure après la Révolution. C'est vrai qu'ils évoquent longuement la censure pré-révolutionnaire, et à la fin, ils lui glissent quand même un « la dejaram pasar », qui veut bien dire qu'il y a encore une commission de surveillance des films. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui apparaissent dès 1965 à peu près. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc, que les jeunes reprennent ce flambeau-là et sont très critiques. Donc je ne sais pas si vous avez connaissance de ce film-là qui s'appelle « Mémoire du développement », qui est la suite de « Mémoire du sous-développement » qui a été tournée en 2010. Donc il y a eu le roman qui est sorti aux États-Unis, le même auteur, Edmundo Desnoes, qui avait écrit « Mémoire du sous-développement » en 62 ou 63, et qui écrit en 2007, une fois, enfin il vit à New York depuis des décennies. Il écrit la suite, et un jeune cinéaste cubain, qui à l'époque avait une trentaine d'années, il a 42 ans maintenant, décide de se saisir du roman et de tourner la suite de l'immense classique cubain. Donc c'est un peu osé comme démarche parce que c'est toujours risqué. Mais voilà, donc Coyu la vit à ce moment-là à New York. Il rencontre Desnoes et il essaie de travailler avec Desnoes comme Gutiérrez Alea avait travaillé main dans la main avec Desnoes. Et dans le roman comme dans le film, là pour le coup de façon beaucoup plus libre, on voit une dénonciation des limitations à la liberté d'expression. Donc là, je vais vous passer un extrait de Mémoire du développement. Donc le personnage s'appelle toujours Sergio. Il a sensiblement le même âge, il a 10-15 ans de plus que dans le premier film. Et comme l'auteur du roman, il est parti vivre aux États-Unis. Donc cet homme qui était assez incomodo à Cuba se retrouve aux États-Unis où il est tout aussi incomodo. Il ne trouve pas sa place, ni dans la société révolutionnaire, ni dans la société capitaliste. Et il se remémore son départ de Cuba et les raisons de son départ de Cuba. Et là, on va voir, donc tout en caméra subjective, l'auteur qui est reçu par le ministère de la Culture à La Havane, à l'époque où il vivait encore à La Havane, et où il est ouvertement censuré. Mais on va voir qu'il s'agit ici de toute cette censura blanda, non ? Toute cette manière de dire « Non, non, mais tout va bien, je te laisse faire, mais tu sais, tout de même, tu devrais dire les choses autrement. » Donc voilà, une censure un peu plus habile, mais dont le résultat est le même. Ce cinéaste, pour information, est retourné vivre à Cuba après ça. Le film est passé à La Havane, hein. Moi, je l'ai vu en salle avec les gens, c'était un peu impressionnant parce qu'il y a des choses très fortes qui sont dites dedans, il dure 2 heures et quelques. Voilà, il est retourné vivre à Cuba où il est extrêmement censuré aujourd'hui pour ses travaux suivants. Voilà. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le roman éponyme, on avait une dénonciation encore plus frontale. Donc là, directement dans le roman, l'auteur est plus clair là-dessus. El sonoro Partido Comunista de Cuba invadió y ocupó las tierras del arte y la literatura. Ya no era como escritor la conciencia de la sociedad. El buró político no solo nos tomó de la mano para cruzar la calle, nos entregó lo que debíamos llevar bajo el brazo y prescribió el ritmo y la distancia entre los pasos. Decidí que así no valía la pena cruzar la calle. No me prohibieron seguir andando por la acera. Eso sí, antes de cruzar la calle debía besarle la mano el anillo al cardenal de la cultura. Me creí iluso que había hecho algo por revelar la imagen de, no me atrevo a decir nación, mucho menos patria, ni siquiera isla. Me ignoraron, nadie me pidió que volviera a escribir. Et cette dernière phrase, elle est d'une grande cruauté, parce que c'est pas tant on m'a empêché d'écrire, mais on ne m'a plus demandé de le faire. Voilà, donc c'est un petit peu ce flou-là. Donc dans tous ces films, ou d'une manière ou d'une autre, en parlant directement du cinéma, ou alors un petit peu à côté, de la littérature, de la peinture, etc., se pose cette question du stéréotype de l'humour. Est-ce que c'est plus facile ou non? Parce que souvent on dit, quand on fait un film avec de l'humour, c'est plus facile de faire passer un message. Il y a des contre-exemples à Cuba, de comédies qui ne sont pas du tout passées et qui ont été trop insolentes pour être diffusées. En revanche, donc, je vais prendre deux exemples très récents. Le premier, c'est Juan de los Muertos. C'est le film de Cubain, le film de zombie cubain qui a été fait à Cuba. Parce qu'en ce moment, à Cuba, il y a une société de production indépendante qui est extrêmement importante, extrêmement active, et par laquelle passent tous les films cubains qui arrivent jusqu'à nos écrans ici, soit en festival, soit en sortie nationale, qui s'appelle Las Producciones de la Quinta Avenida. C'est vraiment la... Yuli, par exemple, le film de Isiel Boyain, a été produit par cette compagnie indépendante et pas par l'Institut National. Donc ce qui est intéressant, c'est que deux des gros films de cette société de production, il y en a un qui est sorti en France qui s'appelle Santa y Andrés, et l'autre, Juan de los Muertos, donc le film de zombies. Juan de los Muertos est très clairement une comédie extrêmement politique, extrêmement insolente, mais qui est sortie à Cuba, qui n'est pas restée très longtemps sur les écrans, mais qui est sortie. En revanche, Santa y Andrés a été censuré et a vraiment fait l'objet d'une polémique très forte et très triste à Cuba. Le cinéaste vit toujours à Cuba, il s'appelle Carlos Lechuga, mais la situation a été très difficile. Et juste pour vous donner une petite idée de ce que l'on peut dire ou pas, et de tout le paradoxe à Cuba de la liberté d'expression, je vais vous passer un extrait de Juan de los Muertos et un extrait de Santa y Andrés. Santa y Andrés, ce qui lui a posé problème et ce qui a entraîné sa censure, c'est que ça revient sur un cas des années 80, en fait sur plusieurs cas de censure dans les années 80, littéraires, et des auteurs, poètes, auteurs de théâtre, qui ont été censurés. Et donc on se dit, bah, aujourd'hui, on devrait pouvoir parler de ça comme une sorte de retour critique sur le passé, en disant, bah, à une époque, être artiste n'était pas évident à Cuba, mais aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Or, le fait qu'ils censurent le film montre que le sujet est encore brûlant. Et à l'inverse, vous allez voir la fin, je suis désolée, je spoil complètement le film de Juan de los Muertos, qui vaut vraiment la peine. Hein. C'est un très bon film. Voilà, donc voici la fin. Donc Juan, le personnage principal, et tout ce que vous pouvez imaginer de anti-homme nouveau, il est feignant, voleur, un peu roublard, extrêmement sympathique, détendu, grand et maigre, enfin bon, un personnage comme ça, un peu l'anti-héros par excellence, qui petit à petit, face à l'épidémie de zombies qui vide complètement les rues de la Havane, devient le seul à pouvoir sauver Cuba. Et donc là, on est à la toute fin du film, et ses acolytes, donc il y avait une bande de 4, décident eux de partir, mais Juan reste. Ce qui en soi est un bel acte patriote. Je suis cubain et je reste ici parce que je suis chez moi. Et vous allez voir la toute fin du générique. Donc ce générique est très typique de ce qui se fait à Cuba parce que l'animation est très importante. Donc là vous avez avec une reprise de My Way par les Sex Pistols un peu. Voilà, donc ça passe, c'est-à-dire tu es fidèle, tout se passe bien, c'est-à-dire clairement là ce geste, enfin ce dos comme ça avec les bras en l'air, c'est Fidel Castro sur la place de la Révolution faisant ses discours, c'est une image qu'on reconnaît tout de suite, vêtue de vert olive, bon voilà, il n'y a pas tellement de doute là-dessus, avec le slogan de surcroît, voilà. Ben ça passe, on rigole. Et à côté de ça, un retour critique sur les années 86, en l'occurrence là, Donc ça, c'est une scène qui a été c'est un très beau film, Santa y Andrés, très très émouvant. Donc c'est l'histoire d'un poète homosexuel qui se retrouve, donc son œuvre gêne, sa personnalité est gênante également, et donc il se retrouve exilé dans un petit village, de façon à échapper un petit peu à tout ce qui peut se passer à la Havane. Il l'isole, et comme dans ce village doit se tenir un sommet de je ne sais quoi, pour ne pas qu'il sorte de chez lui et aille faire un scandale ou à cet endroit où il y aura des gens importants, ils mettent pour le surveiller Santa, qui est une militante du parti, et donc toute la journée, elle doit être assise sur une chaise devant sa maison pour l'empêcher de sortir. Donc c'est un film plus lent, plus contemplatif, et évidemment, va se nouer entre eux une relation de compréhension. Elle va comprendre pourquoi il est là, il va comprendre qu'elle fait ça parce qu'elle est obligée, et donc il va y avoir une très belle histoire d'amitié, jusqu'à ce que Andrés soit rattrapé par son œuvre et soit victime d'une séance de repudio, ce qui se faisait à Cuba et qui est une des gros points noirs de l'histoire cubaine. Donc vraiment, c'est ces moments où les artistes étaient confrontés à un rejet, soit de leur père, soit populaire, orchestré par l'État. Donc là, c'est la scène de repudio, quand les acteurs vous racontent ce moment, même pour eux, ça a été en 2000, je sais plus quoi, extrêmement dur à tourner, c'est très violent à vivre. Voilà, mais c'est une très belle scène, et donc ça, bien sûr, ça a valu l'interdiction du film. Voilà, et c'est Carlos Lechuga, le réalisateur de ce film, avait très sincèrement l'intention d'ouvrir à la discussion et de revenir sur ce genre de... Comme Fidel Castro a pu revenir parfois sur certaines erreurs de la Révolution. Donc, voilà. Et le film avait été fait dans ce sens-là. Premièrement, de parler d'une histoire d'amitié, d'une histoire de tolérance. Et ensuite, de tenter d'ouvrir à la discussion. Et ça n'a pas bien fonctionné. Voilà, donc la censure de façon générale à Cuba, donc évidemment qui la censure et l'autocensure, parce que les deux vont toujours de pair, s'exerce bien souvent pour des raisons conjoncturelles, et le cinéaste doit composer avec. Il y a des époques où être trop dépolitisé vous vaut la censure. Par exemple, c'est le cas du premier et célèbre cas de censure à Cuba du court-métrage PM, qui raconte simplement la vie dans un bar havanais un soir. Les gens dansent, boivent, dansent, terminé. Il ne se passe rien d'autre durant 15 minutes de noir et blanc, comme ça, un petit peu très nouvelle vague anglaise, quelque chose de documentaire, très spontané. Et ce qui a valu au film sa censure, c'est qu'il est arrivé dans le contexte de la crise des missiles et ensuite Playa Girón, moment où il fallait se politiser, où il fallait s'engager pour la société, et le non-engagement dont faisaient preuve les personnes filmées, a été intolérable pour le pouvoir, et donc le film a été censuré. De même pour Alicia en el Pueblo de Maravillas, qui a été un film très... lui, il a été activado, ça veut dire qu'il est passé un jour en salle. Dans la salle, il y avait des membres du parti qui avaient été envoyés, et ensuite il a été retiré des écrans et n'a jamais finalement été réhabilité. Ça a été pour Daniel Díaz Torres, le cinéaste qui est resté vivre à Cuba jusqu'à sa mort. Ça a été un poids artistique et éthique, enfin bref, et politique, enfin bref, un poids qu'il a porté toute sa vie et une grande souffrance. Parce que ce film, Alicia, était une comédie au début de la période spéciale, donc à un moment où il était encore une fois difficile, dans une période de crise où Cuba avait perdu tous ses soutiens, où Cuba était seul dans une crise économique sans précédent, la comédie ironique, très noire, c'était quelque chose qui ne pouvait pas passer. Et là encore, je vais vous passer un extrait de Alicia, parce qu'on y voit... donc Alicia est une professeure de théâtre qui est envoyée dans un village qui s'appelle Merveille, donc c'est Alice au village de Merveille, village dans lequel ne vivent que des tronados, donc des gens qui ont été rejetés pour X raisons qui ne sont pas toujours expliquées dans le film. Et Alicia va vouloir élever le niveau culturel des gens en ne leur montrant pas que des films didactiques, enfin des pièces de théâtre en l'occurrence didactiques, et en essayant de les faire accéder à un art plus critique, etc. Et donc là, on est dans un moment où il y a une projection d'un dessin animé fait par les gens du peuple, et Alicia va mettre les pieds dans le plat et un petit peu les engager à plus de réflexion. Donc encore une fois, vous voyez, on passe par des choses un peu parallèles. C'est pas directement le métier de cinéaste qui est présenté, mais là, c'est une professeure de théâtre, mais c'est la même idée. Voilà. Bref, donc ce sont des petites choses comme ça qui sont disséminées dans de très nombreuses œuvres importantes du cinéma cubain, parce que Alicia n'est pas passée sur les écrans. Néanmoins, on parle d'Alicia depuis 1991, donc c'est un film important. Et ce qui se passe souvent avec le travail des cinéastes, et ce qui revient à une négation de leur métier, c'est une forme d'invisibilisation. Alors certes, les salles sont en mauvais état, certes, il n'y a pas un réseau suffisamment efficace pour passer tous les films, mais malgré tout, trop de films sont chassés des sélections officielles du festival, ou alors sélectionnés pour le festival de la Havane, mais ne passent que deux fois à 23h dans une toute petite salle. Et c'est ce qui s'est passé pour un dernier cas important qui était un film qui s'appelle Quiero hacer una película, ce qui est un titre tout de même assez parlant. Le cinéaste qui s'appelle Yimit Ramirez González était une des jeunes promesses de Cuba, enfin est toujours, enfin bon, il ne vit plus à Cuba, et il avait fait tout un tas de courts-métrages expérimentaux, pas mal de choses intéressantes. Il a 38 ans, 36 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qu'on suivait depuis longtemps comme quelqu'un de prometteur qui parvenait à expérimenter, à repousser un petit peu les limites de façon assez intéressante, les limites esthétiques. Et il a lancé un long métrage qui s'appelle donc Quiero hacer una película, quelque chose d'assez participatif avec les acteurs, une forme assez nouvelle. Il a lancé pour ça un crowdfunding, ce qui est quand même à Cuba peu pratiqué, de plus en plus pratiqué. Il l'a lancé de façon très créative, donc si vous participiez au crowdfunding, vous pouviez avoir une caricature de votre visage, ensuite c'était envoyé, vous pouviez l'utiliser sur les réseaux sociaux, grâce à ça il pouvait communiquer sur les réseaux sociaux, donc quelque chose de très bien fait. Et dans son film, il y a un court moment où un personnage se moque de José Martí. Ce qui, à Cuba, ne se fait pas, sauf que c'est dans la bouche d'un personnage fictionnel. Les autres ne partagent pas forcément son avis. Donc le film avait été présélectionné, il est encore inachevé, ils sont en train de le finir. Il avait été sélectionné en 2018 pour une séance de discussion, c'est-à-dire passer la première version du film et discuter avec le public. Au dernier moment, ils ont changé la salle dans laquelle le film était programmé, quand ils ont vu qu'il y avait cette scène sur Marty. Et ils ont programmé le film dans une salle de 24 places, autant dire zéro, enfin ça ne sert à rien. Et une fois que ça a été fait, tous les cinéastes se sont unis et ont créé un texte de protestation contre cette censure indirecte, cette invisibilisation, qui est le nouveau problème. Et à Cuba en ce moment, c'est ce qu'on voit beaucoup depuis les années 2010, ce sont des réactions systématique face à toutes les embûches comme ça qui sont semées sur le parcours des cinéastes. Là, en l'occurrence, ce qu'on a vu, ce sont les jeunes cinéastes qui se sont réunis. Donc cette année-là, le festival de cinéma indépendant qui s'appelle la Muestra Joven, qui a lieu en avril, le motif de cette année, ça avait été le choix du banc de poissons. Pourquoi le banc de poisson? Parce que le banc de poisson, c'est composé d'un tas d'individualités qui bougent chacune à sa manière, sauf qu'elles bougent dans un grand mouvement collectif. Donc c'était une image qui leur plaisait beaucoup. Chaque année, ils proposent comme ça une image forte. Et cette année-là, comme il y a eu la censure finalement du film de Yimit, ils ont décidé de faire une grande déclaration. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions durant cette édition où ils ont clairement cité le mot censure, parce que c'est quelque chose, on tournait autour un petit peu du terme sans jamais le dire. Donc là, somos los cineastas del cardumen. Nuestro cine se opone al de la falsa esperanza, a ese cine complaciente que no busca generar diálogos productivos con el espectador y pretende adormecerlo para que reproduzca miméticamente conductas, valores e idearios desgastados, desconectados del complejo contexto en que nos ha tocado vivir. C'est que là, on arrive dans le plus frontal, quoi. C'est vraiment la revendication d'une liberté de création. Somos continuadores de un cine inconforme y revelador, ese que el ICAIC acogió y defendió de amplia tradición dentro del nuevo cine latinoamericano. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'à Cuba, être cinéaste, c'est respecter ses pairs et respecter ses prédécesseurs. C'est très important pour eux. Il n'y a pas du tout le rejet des cinéastes officiels. Por ello, no aceptamos zonas de silencio en nuestra historia ni obstáculos para el conocimiento y la representación artística de esta, aun de aquellos sucesos más cuestionables. El dolor acallado solo genera represión, odio e hipocresía social. Somos parte de esta sociedad y estamos comprometidos con ella de forma creativa y crítica. En medio de la apatía, el individualismo y el automatismo predominantes, hacer cine es el gesto positivo mediante el cual participamos. C'est-à-dire, ils reprennent ici toute une rhétorique qui est une rhétorique portée par les idées socialistes et communistes, et ils affirment leur cubanité et leur idéologie tout à fait dans la ligne par moment. Coartarnos es limitar esta participación y con ella nuestro aporte. Cualquier acusación que se cierna sobre nuestras películas debe atender primero los problemas de esta realidad que les sirve de referente, que las condiciona tonal y temáticamente. Apostamos por un cine que nos permita reimaginarnos como nación de manera constante en toda nuestra riqueza y diversidad. C'est quelque chose qu'on voyait déjà dans Fraise et Chocolaté en 92 et qui est répété ici. Et donc il y a la phrase que je vous disais, c'est « Nos preocupa que esta censura se ejerza impunemente ». O sea, claramente, le mot « censure » est très très clairement dit. Le résultat de tout ça, c'est en ce moment une sorte de fuite des cerveaux créateurs. Il y a en ce moment une très grosse communauté de cinéastes à Madrid. Pour la langue, en fait, il est plus simple pour eux, évidemment, d'aller en Espagne. Mais plus qu'à l'époque, il y avait un canal direct vers Miami. Quelques-uns sont à Miami. Juan Carlos Cremata, qui est très connu. Alejandro Brugues, le cinéaste de Juan de los Muertos, est parti aussi aux États-Unis. Mais en ce moment, beaucoup de cinéastes indépendants qui ont entre 30 et 45 ans vivent à Madrid, où ils tentent de produire, parce que le problème, c'est que les cinéastes déracinés se retrouvent confrontés à d'autres réalités industrielles qui font qu'on n'arrive pas comme ça à Madrid ou à Miami ou à Los Angeles et on peut produire un film parce qu'on est cubain et qu'à Cuba on était reconnu. Donc c'est tout le drame de ces cinéastes qui s'en vont parce qu'ils sont lassés de ne pouvoir produire ce qu'ils veulent, mais qui, une fois à l'extérieur, ne produisent pas pour autant des longs métrages et n'arrivent pas à percer autant qu'ils le souhaiteraient. Ensuite, il y a tout un tas d'électrons libres à Cuba qui restent et qui produisent sur place, notamment un cinéaste. Je vous engage à aller voir ce film-là, il est en ligne, accès légal et gratuit. Eduardo Del Llano, le film s'appelle « Ráyame la zanahoria ». C'est volontairement très vulgaire. C'est l'histoire d'un cinéaste qui va faire un cambriolage chez un chanteur de reggaeton. Le film dure 20 minutes. Et il y a une discussion qui s'engage entre le chanteur de reggaeton, vulgaire, artiste vraiment discutable, et ce cinéaste indépendant qui essaie de vivre. Et le court-métrage, je ne vous passerai pas là parce que c'est un peu long, mais il y a au moins 6-7 minutes où il expose tout ce qui pose problème dans le métier de cinéaste et ce qui fait qu'on ne peut pas le faire tranquillement à Cuba. Pas pour les raisons de censure, c'est pas du tout de ça qu'il parle, mais pour des raisons économiques, le contexte, etc. Voilà, donc ce film-là, Ráyame la zanahoria, est une sorte de synthèse de quelques-uns des éléments que j'aborde ici. Je voulais vous parler un petit peu des nouvelles lois qui ont été votées et qui encadrent ce travail. Ce qui est vraiment important à Cuba, c'est que tout ça n'est pas du tout un clivage ancien et nouveau. Il ne faut pas du tout imaginer que les anciens cinéastes sont à l'ICAIC, enfin les anciens, je veux dire les personnes de plus de 50, 60, 70 ans sont à l'ICAIC, et les jeunes sont à l'extérieur. Au contraire, d'ailleurs, les cinéastes institutionnels sont la plupart du temps extrêmement courageux, extrêmement... ils soutiennent très très ouvertement les cinéastes, et eux-mêmes, donc le plus célèbre cinéaste vivant, Fernando Pérez par exemple, est un cinéaste, donc il a plus de 70 ans, il produit encore les longs métrages les plus reconnus à l'international, et lui est un cinéaste qui alterne finalement entre une production institutionnelle et une production indépendante de façon très libre et qui soutient extrêmement courageusement les cinéastes. Il est directeur de la Muestra de Cine Joven et il en a même démissionné à un moment où, enfin, juste à quelques jours du début du festival, il a démissionné de son poste, là aussi très de façon explicite pour dénoncer la censure d'un film dans le cadre du festival. Alors à Cuba, ce qui se passe depuis 2013, c'est qu'il y a un mouvement pour revendiquer une nouvelle loi du cinéma, puisque les cinéastes sont régis par une loi qui date de 59. Donc ils disent tous, partout, au Costa Rica, au Venezuela, en Colombie, il y a des nouvelles lois du cinéma. Nous aussi, on a besoin d'un nouveau cadre pour produire. Donc ça, Enrique Álvarez, c'est un cinéaste qui est professeur à l'école de cinéma de San Antonio et qui porte ici le t-shirt qu'il avait fait éditer lui-même, Yo quiero una ley de cine, puisque Kiki Álvarez a été à la tête d'un mouvement qui s'appelle le G20, c'était assez rigolo parce qu'ils étaient une vingtaine de personnes, et donc le G20 a commencé à réclamer une nouvelle loi du cinéma. C'est une loi qui ne nie pas l'existence de l'ICAI, qui ne revendique pas un nouvel institut, mais qui demande principalement deux choses. La première, c'est un fonds de financement des films démocratique, transparent, qui puisse, c'est-à-dire concentrer l'argent de l'État. On est à Cuba, hein, tout est national. Donc un fonds qui puisse proposer une sélection ouverte avec des jurys qui évaluent les projets, qui donnent de l'argent, voilà, de façon très claire chaque année. Donc El Fondo de Fomento, ça c'était la première demande. Et la deuxième demande, c'est un statut légal pour les travailleurs du cinéma. Parce que depuis que Raúl Castro est au pouvoir, il y a eu un assouplissement de l'entreprise privée à Cuba. Et dans le cadre de cet assouplissement, il y a eu beaucoup de producteurs indépendants qui ont ouvert des maisons de production. C'était quelque chose qui était permis par la loi. C'était permis de les ouvrir, c'est permis de travailler, mais vous n'avez aucune reconnaissance légale, c'est-à-dire pas de retraite, pas de couverture sociale, pas de couverture en cas d'accident, aucun moyen, par exemple, si vous touchez 3 000 euros au Festival de Toulouse, au Festival de Biarritz, au Festival de... Vous recevez un prix et vous n'avez aucun moyen de le poser sur un compte au nom de votre film ou de votre maison de production puisqu'elle n'existe pas. Bon, bref, tout un micmac qui fait que Cuba vit une situation, mais que légalement, elle n'est pas reconnue. L'explosion du cinéma indépendant à Cuba est un fait. Même certains cinéastes indépendants sont ensuite totalement récupérés, de la meilleure façon, hein, mais par l'industrie qui voit en eux un potentiel. Voilà. Et tout ça n'était pas reconnu dans une loi. Donc de 2013 à 2016, le G20 s'est réuni autant que possible. Dedans, il y avait des cinéastes, mais aussi des techniciens, des acteurs, voilà. Et ils ont revendiqué cette reconnaissance légale principalement. Alors, ils ont obtenu en mars 2019, vous voyez ça, en 2016, ils se sont un peu lassés de tout ça, donc le mouvement s'est un petit peu éteint, s'est essoufflé. Mais il y a eu en mars 2009 l'annonce de l'ouverture d'un registre des travailleurs indépendants du cinéma. Ça a été ouvert de fait en juillet 2019. Donc il y a eu deux lois, et encore une fois, donc deux décrets-lois. Qui s'appelle le 349 et le 373. Alors, celui-ci, c'est le fameux registre. Donc, à partir de son ouverture, en juin, il a été dit à tous les cinéastes institutionnels et indépendants, courez vous inscrire au registre. Donc là, quelques temps plus tard, j'ai pu dîner avec Fernando Pérez qui m'a montré sa carte. Donc, il m'a dit, tiens, regarde, ça y est, j'ai signé le registre, j'existe. Voilà, donc, vous voyez, tous les créateurs, donc lui, c'était le 141e à aller s'inscrire. Son inscription vaut pour 10 ans, jusqu'en 2029, il sera reconnu, qu'il fasse un film au sein de l'institution ou en dehors. Donc évidemment, toute avancée légale ne va pas sans polémique, puisque dans le texte, il y a des choses qui, encore une fois, provoquent chez les jeunes cinéastes et chez les moins jeunes d'ailleurs, une grande méfiance. Donc par exemple, là, dans cette loi, on a un por cuanto qui dit la production audiovisuelle et cinématographique se ha incrementado à partir de variados soportes y modalidades que han favorecido la aparición de nuevas perspectivas creativas, tecnológicas y productivas, lo que aconseja probar la figura del creador audiovisual y cinematográfico independiente. Donc ça, c'est une phrase qui ne fait que constater ce qui est un fait depuis des années, l'existence d'un cinéma indépendant. Donc là, c'est assez beau, c'est la loi qui dit, nous devons reconnaître qu'ils existent. Así como crear el registro del creador audiovisual y cinematográfico y el comité de admisión al efecto de garantizar la calidad de sus producciones y el adecuado uso de los recursos que el país emplea en el desarrollo de esa actividad. Et là, il y a pas mal de cinéastes indépendants qui ont dit, ben voilà, de nouveau, dans cette manière de nous aider, il y a une autre forme de contrôle. Après, je ne fais pas encore le procès de ce genre de... Enfin, je ne fais pas le procès parce que je ne suis personne pour faire le procès de ça. Mais voilà, je constate la méfiance des cinéastes parmi les plus indépendants à Cuba. De même, il y a eu un décret-loi un petit peu avant, en avril 2018, qui est un décret-loi qui semble un peu fait pour encadrer le reggaeton, puisqu'il interdit la pornographie, le langage sexiste, vulgaire, obscène, etc. Mais qui donne la possibilité à la police d'intervenir à chaque fois qu'une manifestation culturelle qui porte atteinte d'une manière ou d'une autre à la morale, etc., aura lieu dans une rue à La Havane, une projection de cinéma, un happening artistique, une exposition. Voilà. Donc ce genre de décret provoque vraiment une réaction assez épidermique chez les créateurs, puisque ce qu'ils voudraient, c'est autre chose, quoi. C'est une reconnaissance de la pluralité des voix. Et ça n'est pas exactement ce qu'ils obtiennent. Voilà. Et la dernière difficulté que je voudrais évoquer, c'est la difficulté financière. Donc, pour rester cinéaste, il faut faire des films. Et pour faire des films, même à minima, c'est-à-dire avec une caméra numérique, avec un logiciel de montage, etc., c'est coûteux. Même si les Cubains sont miraculeux là-dedans, c'est-à-dire ils arrivent à faire des films avec 10 000 dollars de façon assez impressionnante, le financement devient extrêmement problématique à Cuba. Dans les années 60, c'était les débuts. On avait mis pour le cinéma en œuvre énormément de financements, donc il y avait des films qui se faisaient. En 90, avec la chute du bloc de l'Est, c'est une crise atroce qui ouvre la voie à la coproduction avec l'Espagne notamment. Vraiment, en 96, il y a le fonds Ibermedia qui se crée. Le fonds Sud aussi en France de Jack Lang, mais qui va moins aider le cinéma cubain, parce que c'est comme ça. Voilà, donc tous ces fonds-là vont aider le cinéma cubain, mais le cinéma cubain va donc gagner en finance, mais peut-être un petit peu perdre en autonomie. Il ne s'agit pas du tout de vendre son âme au diable et d'imaginer que les films étaient contrôlés par l'Espagne ou par les coproducteurs, mais néanmoins, ça change un petit peu le cinéma cubain dans ses thématiques, dans sa forme. Voilà. Et aujourd'hui, donc 2019, il n'y a plus d'argent à l'Institut cubain. Donc, quand l'Institut cubain signe des accords de coproduction, en réalité, il devrait apporter un pourcentage financier, mais il ne peut pas le faire, il n'a pas d'argent. Donc, très souvent, il apporte son pourcentage en nature, donc les acteurs, le matériel, les permis de tourner, etc. Et les cinéastes se retrouvent dans l'obligation d'aller chercher des financements. Alors, c'est vraiment aller chercher un petit millier d'euros de ce côté, un millier d'euros de ce côté. Donc, il y a le crowdfunding que j'ai déjà mentionné. Il y a toujours ces fonds Ibermedia, le fonds du CNC en France. Il y a tout ce qui est festival de cinéma. Donc, soit les prix que vous gagnez directement, les prix à la distribution, les prix de sous-titrage. Enfin, il y a tout un tas de possibilités pour financer les films. Mais aussi les ciné-fondations, enfin les résidences, donc comme la ciné-fondation de Cannes, qui est un peu le Graal, évidemment. Mais à côté de ça, il y a des fonds ponctuels. Donc tout ça, c'est très beau et c'est intéressant de savoir qu'ils existent et c'est primordial. Mais ça n'est pas forcément pérenne. Par exemple, en ce moment, il y a deux fonds. Il y en a un qui s'appelle le Go Cuba, qui est un fonds hollandais d'Amsterdam qui existe depuis 2015, donc qui est très important pour les Cubains, pour les jeunes, parce que c'est 5 000 ou 10 000 euros selon qu'on fait un court-métrage ou un long-métrage, c'est très important. Et il y a aussi l'ambassade de Norvège qui, depuis quelques années, a lancé une aide systématique aux jeunes Cubains. Et alors, je vous mets juste cette petite photo parce que c'est intéressant. Donc, ça s'appelle Cinema con las Estrellas. Donc, c'est que l'ambassade de Norvège donne des prix chaque année. Et ensuite, elle remet ses prix et elle organise des projections. Et ce qui est fou, c'est de savoir que les plus grands espoirs du cinéma cubain, des jeunes cinéastes hyper talentueux de 20 ou 30 ans, passent leurs films dans cet espace que vous voyez sur la photo, qui est en fait le terrain de tennis de l'ambassade de Norvège sur le mur du terrain de tennis. C'est tout de même un peu... c'est du gâchis d'une certaine manière quand on voit que par ailleurs, ce sont des cinéastes qui arrivent à tourner avec des cinéastes prestigieux, collaborent à des projets de scénario. Voilà, ils sont très demandés, mais leur reconnaissance dans le pays est tout de même assez limitée. Voilà. Et ensuite, y a tout un tas de freins. Donc, d'un côté, il existe des aides, mais d'un autre côté, il faut avoir moins de 35 ans pour les toucher. Alors, dans certains pays, quand on est jeune, on a moins d'argent. À Cuba, non. À 70 ans, ils sont toujours aussi fauchés. Donc, il faut avoir moins de 35 ans, il faut avoir Internet pour envoyer son dossier de candidature, c'est tout bête. Pour participer au festival, il faut avoir une bonne connexion Internet pour envoyer un lien ou bien son film par WeTransfer ou équivalent. Ça n'a l'air de rien, mais les particularités du système bancaire, il y a tout un tas de limitations qui existent à Cuba, donc au-delà des limitations mentales, quoi. Donc, quand il y a eu le rapprochement avec Barack Obama, on a cru que ça allait être formidable. Donc, c'est là qu'il y a eu le tournage de Fast and Furious numéro 8 à La Havane. Tout d'un coup, ça devait injecter beaucoup d'argent dans les caisses de l'institution. Sauf que ça a duré un an et que l'embargo n'a pas été levé, contrairement à ce qui se dit parfois. Et puis maintenant, avec Trump, l'embargo a été encore renforcé. Le tourisme états-unien vient d'être d'une certaine manière interdit il y a quelques mois à nouveau, donc la fin des paquebots qui arrivaient. Et donc les producteurs cubains qui finançaient leurs films, de quelle manière? Très simplement en faisant des films institutionnels avec n'importe quelle boîte américaine qui venait à Cuba, n'ont plus d'argent pour financer leurs films puisqu'ils n'ont plus de clients états-uniens. Donc bref, c'est très très cruel ce qui se passe en ce moment pour eux. Voilà. Donc juste terminer en vous disant que les thématiques actuelles du cinéma cubain reflètent une certaine lassitude chez les cinéastes, mais en même temps une solidarité qui est directement héritée de cette éducation communiste. Les cinéastes montrent qu'ils ont conscience des limites et, selon les cas, démontrent leur solidarité envers leurs collègues. Voilà, même si chacun est tellement plongé dans des problèmes, donc soit de censure, mais surtout des problèmes économiques, que parfois c'est difficile de s'engager dans des mouvements comme le G20, mais bon, ils essaient d'être solidaires. On voit poindre aussi depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, des films apolitiques, c'est-à-dire des cinéastes qui disent « mais après tout, si moi j'ai envie de faire un film de genre complètement déconnecté de la politique, un film d'amour, un film, un thriller qui n'aurait rien à voir avec Cuba », c'est quelque chose que les cinéastes revendiquent aussi. Ils n'ont pas tous envie de parler à favor ou en contra, mais du régime cubain. Voilà. Il y a aussi la pauvreté qui écorne un peu, enfin donc la pauvreté qui devient un thème du cinéma cubain contemporain, pas depuis un moment déjà, qui écorne un peu le mythe de l'égalité à Cuba. Et de, donc Chal a par exemple, Chal a une enfance cubaine qui s'appelle Conducta à Cuba, et Chal a une enfance cubaine en France. Donc ce film-là montre qu'il existe des quartiers défavorisés, des personnes exclues à Cuba. Et toujours qui traverse toutes ces problématiques, la question de l'exil, autant dans la réalité, c'est-à-dire les cinéastes s'exilent, que dans les histoires. On raconte encore des histoires de familles séparées, d'éloignement. Voilà. Et donc tout ça est parfois abordé de façon très métaphorique. Et je vous passe un dernier extrait pour terminer, qui est un extrait d'un très joli film qui risque d'avoir une sortie française, qui s'appelle El viaje extraordinario de Celeste García. Je n'ai pas pris l'affiche. Donc El viaje extraordinario de Celeste García, qui est une très jolie histoire métaphorique justement sur le départ. Donc là, c'est un moment où le personnage principal, Celeste, qui est une femme de 50 ans, qui travaille au planétarium de la Havane, va écouter, comme tous les Cubains, le noticiero du soir, et va entendre une nouvelle totalement extraordinaire, qui est que Cuba a reçu une délégation extraterrestre, et que ces extraterrestres proposent un quota de visa pour aller vivre pendant de longues années, pour toujours, puisque ça met 10 ans le voyage jusqu'à Griok, la planète. Et donc Celeste García va essayer de participer au tirage au sort. Donc ça rappelle évidemment tous les tirages au sort pour les visas états-uniens. Voilà. Mais c'est une manière un peu métaphorique de parler de ça et de la possibilité de s'en aller vers un ailleurs, qui est ici une planète extraterrestre, et de s'en aller parfois vers un ailleurs pour échapper à quelque chose. Donc là, on voit ce moment où Celeste et d'autres Cubains apprennent la grande nouvelle. Donc ça, c'est un film qui date de l'année dernière. Il faut le voir en salle, les Cubains, mais rient aux éclats quand ils voient cette parodie, c'est à peine, parce que je crois que c'est le vrai présentateur qui l'a fait. Voilà, avec encore une fois, la civilisation de Griok est très impressionnée par nos avancées, voilà, avec tout ce discours officiel. Et...